À ouvrir les Bibles dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9. Pourquoi je vous donne ça? Parce que c'est un verset que je connais par cœur et que chaque fois que je répète, je me sens mal. 1 Corinthiens 9, c'est pas que je me sens mal, mais parce que les choses qu'ils disent, elles sont très fortes. Et je vais vous les lire. Qui n'est pas le sujet du message, hein, mais c'est pour introduire ce message. Alors, chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Chaque fois que ce verset il me vient, je me sens coupable. Pourquoi? Parce que je me dis, Aldo, tu ne le fais pas assez. Pourquoi? Parce que la prédication, les témoignages, c'est la chose la plus importante de notre vie. Et vous savez, un des besoins les plus grands à cette heure, dans ce monde, c'est justement la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai dit toujours, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas vous qui avez Jésus-Christ dans votre cœur, qui voulez-vous qu'il dise ces choses-là à tous ceux qui encore ne le connaissent pas? C'est le moment de faire entendre la prédication. Pourquoi? Parce que les perdus et les sauvés, ils ont besoin de cela. Les perdus pour qu'ils puissent être sauvés. Et les sauvés pour qu'ils n'oublient pas d'où ils sont tombés, d'où nous sommes tombés. Parce que nous étions des leurs. Nous étions comme eux. Le Seigneur, il nous a fait du bien. Et le Seigneur, il désire faire du bien à tous. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, il n'oblige personne. Voilà pourquoi nous devons annoncer. Ensuite, c'est à la personne qui entend de prendre la décision qu'il faut. Il y en a beaucoup qui disent, oui, j'annonce, je prêche, mais il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Le Seigneur ne te demande pas d'avoir des résultats. Le Seigneur, il te demande d'annoncer. Dans Zacharie, il nous a dit, annonce. Il dit, fils de l'homme, je t'ai établi en tant que sentinelle. Tu vois les ennemis, il faut prévenir les gens. Après, si les gens, ils désirent rester là lorsque l'ennemi arrive, qui ne prend aucune disposition, c'est son choix. Et le Seigneur, il dit, Ézéchiel, c'est pas ton problème qu'ils écoutent ou ils n'écoutent pas. J'ai connu un pasteur qui était à Ménoucourt. C'est pas loin d'ici. Il est resté ici 6 ans. Il a ouvert une église dans sa maison. Et pendant ces 6 ans, toujours lui et sa famille. Et il prêchait, il distribuait, il faisait tout. Il a eu un mal au dos. Il a dû rentrer aux États-Unis. Mais sa maison, il était toujours sa famille et quelques personnes comme ça qui participaient. Une fois qu'il est parti, il est né une église. Une église des gens qui ont entendu ce message. Le Seigneur, il regarde le travail qu'on fait et pas ce qu'on peut dire tout autour de nous. C'est ce que nous devons faire, c'est travailler. Et lorsque j'ai lu ce verset, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et il faut le faire aujourd'hui, car il y a une famine. Et vous savez, le Seigneur, il avait prévu cela. Et il a même prophétisé cela. Regardez, j'ai marqué ici, dans Amos. Regardez ce qu'il dit Amos, chapitre 8. C'est la prophétie du Seigneur. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur. Ce n'est pas maintenant. Il dit, mais les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain ou de soif d'eau, mais la faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est un peu comme lorsqu'il y a eu la libération des pays de l'Est. Avant, prêcher l'Évangile, c'était interdit dans ces pays-là. Lorsque le mur de Berlin il est tombé, ces pays se sont ouverts. Il y a eu des centaines de missionnaires qui sont partis là, et il y a eu des milliers de convertis. La moisson, elle était là. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. Les gens, ils ont besoin d'entendre la prédication. Ils ont besoin d'entendre la parole de l'Évangile. Vous savez, la parole, l'Évangile est simple. Et quelqu'un a dit que même un enfant de 5 ans, il peut comprendre l'Évangile, surtout l'Évangile des Jean. Tous, ils peuvent le comprendre, mais il faut le prêcher, il faut le témoigner. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Évangile est simple. Et ce matin, je vais vous donner ma prédication de l'Évangile. Le sujet est simple. Il est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, un peu difficile à entendre. Mais Dieu, il en parle dans sa parole. Et je dois vous en parler. C'est un peu comme la même chose que le sang de Jésus. Il y a plusieurs Bibles qui ont enlevé le sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent le sang, ils tombent raides. Mais la Bible, il utilise le mot sang. Et ils ont remplacé le mot sang par la mort de Jésus. C'est pas la mort de Jésus qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous lave. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et il ne faut pas enlever, et il ne faut pas déformer ce que Dieu nous dit. Et le sujet de ce matin, je vais vous parler de la mort. Ce n'est pas beau, n'est-ce pas? Écoutez sur la mort, car on veut vivre, mais Dieu il en parle. Et je suis obligé de vous en parler. Pourquoi cela? Parce que c'est quelque chose à laquelle chacun de nous ici présents et dehors, ils sont obligés d'y passer. C'est le seul rendez-vous auquel personne il peut dire « non, je ne vais pas ». Là, hein, quand on connaît une jeune fille, un jeune homme, on se donne rendez-vous, n'est-ce pas? On peut ne pas y aller. Mais là, à la mort, ah, on doit y être là. Et il y a ce verset dans la Bible, dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Là, c'est encore le monde, il connaît ce verset et il te le répète. Et il te dit, oui, je sais que je dois mourir. Il est même écrit dans ta Bible. Oui, je sais qu'il est écrit dans ta Bible. Mais tu ne répètes pas le verset en entier. On doit tous mourir, oui, mais si tu lis Hébreux 9, hein, le verset 27, hein, il dit « Il est réservé aux hommes de mourir une fois ». Oui, on meurt qu'une fois. Hein. Mais ensuite vient le jugement. C'est ça que le monde ne veut pas entendre aujourd'hui. Et la mort, hein, c'est le jugement de Dieu. Et c'est de cette mort-là que j'aimerais vous parler. Car on est tous confrontés. Tous on va y passer un moment ou un autre. L'homme, il a essayé avec ses grandes découvertes de prolonger la vie éternellement, de garder les gens en vie. Il y a même des gens qui sont malades, ils se sont mis dans des frigos, congélateurs, je ne sais pas le terme qu'on utilise, je ne le connais pas, pour qu'ils puissent être réveillés lorsqu'il y aura des découvertes. Et non, Dieu nous dit, tous ils doivent passer. On ne passe pas à travers, mais après il y a le jugement. Et le jugement, c'est le jugement de Dieu. C'est un jugement juste. Un jugement qui nous donnera selon ce que nous avons fait, selon ce que nous avons, de la façon dont nous avons agi. Et la Bible nous parle de cette mort. Il y en a plein dans la Bible. Et je vais vous montrer trois choses à propos de la mort, à laquelle nous devons réfléchir, soit sauvés ou pas sauvés, parce que tous, on doit y passer. Premièrement, la Bible nous avertit sur l'origine de la mort. Parce que ça n'a pas été toujours comme ça. L'origine de la mort. Et vous savez, dans le jardin d'Eden, Dieu il avait placé sa créature, Adam et Ève. Il avait tout mis pour qu'ils puissent être heureux, pour qu'ils puissent tout avoir. Et ils étaient heureux. Mais Dieu, il y a toujours la mise à l'épreuve. Et Dieu, il leur a dit, bon voilà, tu es là, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a une seule chose que je t'ai dit de ne pas faire. Et ça, on le trouve dans Genèse 2, 16, 17, il dit, « Le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car les jours où tu mangeras, tu mourras certainement. » Voilà les commandements que Dieu lui a dit. Résultat, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit interdit et ils sont morts spirituellement parce que Dieu les a chassés du jardin. Donc, qui dit chasser, plus de communion avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Plus de contact, plus de communion avec Dieu. Et par la suite, la mort physique. Et d'ailleurs, plus tard, après Adam et Ève, Dieu, il énumère 9 personnages. Le premier, c'est Enoch. Nous savons qu'Enoch, il a été enlevé. Il a marché avec Dieu 360 ans et Dieu, il l'a enlevé. Mais les 8 autres personnes, si vous lisez, c'est marqué. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Et ça, c'est la conséquence du péché à nous-mêmes. Plus tard, dans le roi d'Israël, ces gens-là, c'est marqué, ils ont régné, ils ont vécu et ils sont morts. À Moïse, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, il lui a dit quoi, le Seigneur ? Voici les jours où tu dois mourir, approche. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À Ézéchiel, il lui a dit, prépare tes affaires, tu vas mourir. Le Seigneur Jésus, il en a parlé. Il a parlé de ce riche, chapitre 16, dans Luc, avec Lazare, qu'il a vécu la belle vie, mais il est mort. Il a parlé aussi de cet homme insouciant qui s'est confié dans ses propres possessions. Et dans son sommeil, le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même ta vie, il va être réclamé. Et il est mort lui aussi. Et cet homme riche, qu'il s'est croyé à l'abri de toutes ces choses-là, mais il est mort. Et cette mort, il est venu à cause du péché, pas à cause d'autre chose. Quand le premier homme il a péché, la mort il est rentré. Parce que Dieu il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux dans le paradis. Mais à cause de leur désobéissance, la mort elle est arrivée. Et c'est ça qui doit nous. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes en vie, mais déjà nous voyons dans notre propre corps cette mort qui approche. Nos dents, ils sont cariés. Nos cheveux, ils commencent à devenir tout gris. On les perd, n'est-ce pas? On est soumis à toutes ces maladies-là. Et ça, c'est l'approche. De dire, tiens, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a eu même des métiers qui se sont développés pour préparer cette mort. Les fleuristes, regardez au coin des cimetières. Il n'y a que ça. Pour préparer, parce qu'il y a cette mort. Les vendeurs d'assurance vie, ben, ils sont là pour ça. On doit mourir. Vous devez, un jour, un moment à l'autre, vous devez mourir. Il faut prendre des assurances. Et lorsque nous, on dit aux gens, vous assurez de tout. Pourquoi vous ne vous assurez pas sur votre vie? Ah, mais je ne crois pas. Mais assure-toi. Combien de nous, on s'assure, on a une mutuelle santé? On aimerait bien qu'on ne soit jamais malade. Alors on se dit, oh, je me demande pourquoi je paye, hein, je suis en bonne santé. Mais s'il t'arrive quelque chose, tu es bien content d'avoir une mutuelle. Et vous savez, dans l'Antiquité, tous les architectes, lorsqu'ils construisaient les maisons, la porte d'entrée, ils la construisaient en disant exactement, il faut laisser la place pour laisser passer les cercueils. Parce que la mort est là. Vous pouvez dire, mais toutes ces choses-là ne m'effrayent pas. À moi non plus ne m'effraie pas. Pourquoi ne m'effraie pas? Parce que je sais que si je meurs, je sais où je vais. J'ai le Seigneur Jésus dans mon cœur. Et le Seigneur Jésus, il m'a dit que lorsqu'on meurt, on va les rejoindre. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a dit au larron. Vous vous en souvenez? C'est ça. Et voilà pourquoi la mort, elle va mettre un terme à tout ce que vous êtes en train de faire, à tout ce que vous avez organisé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand elle vient. Nous savons une seule chose, que nous devons mourir. Et nous devons être prêts. Mais tout ça, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Hein? Il y a un cantique, je vais vous lire un vieux cantique, ce qu'il dit, je l'ai mis ici. Il dit, les temps s'envolent, les moments passent. Ils passent pour vous et pour moi. Les ombres s'annoncent. Le lit de la mort s'approche. Il vient pour vous et pour moi. Revenez à la maison, revenez à la maison, vous qui êtes las, revenez à la maison. Doucement, tendrement, Jésus appelle, appelant le pécheur, reviens à la maison. Pourquoi? Parce que si on a les péchés dans notre cœur, cette mort ne sera pas seulement physique, mais spirituelle. Deuxièmement, la Bible nous avertit de ce qui se passe après la mort. Oui, la Bible nous apprend ce qu'il arrive après la mort. Beaucoup, ils disent, mais qu'est-ce que j'en sais ce qui va arriver après la mort? Après moi, le déluge. Voilà. Non, mais la Bible, il nous dit ce qu'il arrive après la mort. Et moi, je fais plus confiance à Dieu qu'à ceux qui me disent qu'après la mort, il n'y a rien. Après la mort, qu'arrivait-il en chrétien après la mort? Après la mort, Paul il nous le dit, être absent du corps, mais présent avec le Seigneur. Être absent du corps, ça veut dire on meurt, mais on est présent avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5. Quand un chrétien meurt, son corps elle va à la tombe. Mais son âme, son esprit, il va à Dieu. Ça, c'est le chrétien. Jésus a dit au voleur à la croix, vous en souvenez, qui s'était converti. Il a dit, en vérité, je te l'ai dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi, paradis. Là encore, il y a eu, je vous l'ai déjà dit, il y a eu le malin. Les hommes malins, les gens qui se croyaient plus, qui ont essayé de corrompre, de changer la parole de Dieu. Et ces versets-là, ils ont essayé de les changer. Des gens qui disent, oui, mais le salut, le chrétien, s'il meurt, il ne va pas au ciel. Il reste sous la tombe. Non. Comment ils ont fait? Ils ont juste changé une virgule. Et si vous changez la virgule, tout change. Comme ici, le Seigneur, il dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui. Virgule. Voilà, tu seras avec moi au paradis. Ça change tout. Il nous dit que tu seras, pas maintenant, pas quand tu meurs, mais tu seras. Mais ce verset, il dit, en vérité, je te le dis, virgule. Ça change tout. Pourtant, je ne suis pas français. Hein. Je suis italien. Mais je sais que lorsqu'une virgule, il change. En vérité, je te le dis. virgule. Et les malins, ils ont dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Non, ça change tout là. Le Seigneur, il dit, en vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'ils étaient vivants encore, tous les deux. Tandis que si tu mets la virgule, en vérité, je te le dis, virgule. Non, je te le dis aujourd'hui, voilà, virgule. Là, ça change tout. Je te le dis aujourd'hui, tu seras. Quand? Je ne sais pas. Non, tu seras avec moi au paradis. C'est ça, quelqu'un qui s'est converti, il est directement, il monte directement au paradis. Parce que le Seigneur, il nous a ouvert les portes. Et nous pouvons rentrer, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Parce qu'avant Jésus, on ne pouvait pas s'approcher du trône de la grâce. Car si on est pécheur, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais après Jésus, il a ouvert les portes. Et celui qui a Jésus dans son cœur, il peut s'approcher de Dieu. Il peut rentrer en contact avec Dieu. Qu'arrivera-t-il à celui qui n'a pas le Seigneur Jésus dans son cœur? S'il n'a pas le Seigneur, la colère de Dieu est sur lui. Il est réservé à tous de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Il subira les jugements. Et on l'a vu, le Seigneur Jésus, dans Luc 16, il parle de ce riche, qu'il a vécu la belle vie. Il ne s'est pas occupé des pauvres, il s'est juste occupé de sa vie. Il est mort, et où est-ce qu'il est descendu? Au séjour des morts. Où il a souffert. Les gens, ils disent, ah, je suis mort, je ne sens pas, je ne sens plus rien. Mais ici, le Seigneur, il nous dit autrement, ce riche, il parle. Ce riche, il sent le feu, il sent la souffrance, il sent la soif. Et il dit, il voit le Père Abraham. Et il dit, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il m'apporte un peu d'eau parce que j'ai trop soif. Il se voyait là. Parce que c'est le séjour des morts. Avant Jésus, le séjour des morts, il était partagé en deux. Le sein d'Abraham et le séjour des morts, où il y avait le désespoir, la souffrance, la détresse. Et en levant les yeux, il a dit, Père Abraham, envoie. Et Abraham, il a dit, entre vous et nous, il y a un abîme. Personne ne peut le passer, cet abîme. Voilà, c'est ça. La souffrance de celui qui ne connaît pas le Seigneur. Et cette souffrance est véridique. Jésus, il nous dit, et ceux-ci, ils iront au châtiment sans fin. C'est Jésus qui l'a dit. Et nous savons que Jésus, il ne ment pas. Ceux-ci, qui ceux-ci? Ceux qui n'acceptent pas sa parole, ceux qui ne naissent pas de nouveau, ceux qui refusent de se tourner vers Dieu, ceux-ci, ils iront au châtiment sans fin. Oh, je sais que beaucoup disent qu'il n'y a pas d'enfer. C'est pas possible qu'un Dieu d'amour, il puisse envoyer quelqu'un en enfer, qu'il puisse faire souffrir quelqu'un. Oui, mais Dieu, il est saint. Dieu, il prévient avant d'agir. Voilà pourquoi nous avons la Bible. Voilà pourquoi nous pouvons en parler. Voilà pourquoi nous savons ce qui arrive après la mort. Parce que Dieu, il nous l'a dit. Dieu, il nous l'a dit. Et il nous a dit, châtiment sans fin. Et ils auront part dans le temps qui brûle avec le feu et les soufres d'Apocalypse 21. Comme je dis ce matin en étudiant Satan, ils iront dans l'endroit qui a été réservé pour Satan et ses anges. Et c'est là qu'ils vont souffrir avec le diable, avec Satan, avec les anges déchus. Parce que l'enfer, il a été préparé pour lui. Mais puisque nous ne voulons pas de Dieu, vous savez, il n'y a que deux camps. Il y a Dieu ou il y a Satan. Si vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous allez rejoindre Satan. Et quelle est la destinée de Satan? C'est l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie, qui nous envoie en enfer, mais c'est nous-mêmes. Parce que nous refusons ce que Dieu il a en réserve pour nous. C'est ça que le Seigneur il nous met en garde. Les gens, ils disent, oui, mais une fois mort, il y a encore une autre chance. Alors, absolument pas. La Bible nous le dit clairement. On est mort et on est mort. C'est pendant notre vie que nous choisissons être du côté de Dieu ou pas. Ce n'est pas une fois mort. Parce qu'on est mort. On ne peut plus rien faire si on est mort. C'est ce qu'on a vécu pendant notre vie qui va décider toutes ces choses-là. Comme il a dit Abraham, entre vous et nous, il y a un grand abîme. Personne ne peut passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué une affiche qu'il y a tout au fond là. Hein? Il y a d'un endroit une ville et de l'autre côté une autre. Et entre ces deux villes, il y a un grand abîme. Ça, c'est pour cataloguer notre vie actuelle. Pour passer d'un endroit à l'autre, il n'y a pas de pont. Mais il y a la croix de Jésus-Christ qui il a été mis sur la croix. Et à un certain moment, cette croix, il se met entre les deux côtés, dans cet abîme. Et ceux qui passent par la croix, seulement, ils peuvent passer d'un endroit à la Jérusalem céleste. C'est seulement comme ça, il n'y en a pas d'autre. Mais la Bible, Christ nous appelle à cela. Il nous appelle à prendre les décisions. Voilà pourquoi dans ce vieux cantique, il dit « Christ, Jésus, il nous appelle. » Il nous appelle à passer de ce monde à l'autre. Parce que c'est là qu'il faut faire la décision. Et pas une fois mort, hein. On ne peut pas une fois mort. Donc c'est maintenant. La troisième chose que la Bible nous dit, c'est que la mort, hein, elle est soudaine. Elle est soudaine. Que vous soyez en bonne santé ou que vous soyez en mauvaise santé. Il y a eu tellement de sportifs qui, comme on dit, ils pètent la forme. Hein. Et pourtant, paf. Une crise cardiaque, ou autre chose, paf, et il meurt. Elle est soudaine, on ne sait pas. Mais pourtant, Dieu, il a averti, mais il y a des gens qui se moquent de Dieu. Et la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu impunément. Il y a dans Proverbe 21, 1, il nous a dit, c'est lui qui étant souvent repris, raidit son cou, sera subitement brisé, et c'est là sans remède. Les pharaons, vous en souvenez l'histoire des pharaons? Moïse s'est tourné vers lui, laisse aller mon peuple! Et il a toujours refusé, il lui a donné des preuves. À un certain moment, Dieu il a dit, voilà, continue, je vais enfermer son cœur. À un certain moment, lorsque notre cœur il devient dur, lorsqu'il ne veut plus entendre rien, Dieu, il nous laisse tomber. Et vous savez, il y a dans Pierre, il y a ce verset qui dit, oui, ça fait 2000 ans que vous nous prêchez le retour de Jésus-Christ, et encore il n'est pas revenu. Qu'est-ce que vous nous chantez? Et Pierre, il répond, il dit, c'est la patience de Dieu. C'est que Dieu, il est patient. Mais un jour, un moment, cette patience, il va se terminer, un peu comme il y a eu au déluge. Au déluge, comment s'appelle? Noé. Noé, il a prêché pendant 120 ans. Il va y avoir un jugement qui va s'abattre. Il le voit construire un bateau. Et où il a, dans un endroit, il n'a jamais plu. Qu'est-ce que tu fais? Un bateau, car Dieu, il va venir le jugement. Et tout le monde rigolait. Mais un jour, Dieu, il a fermé la porte. Et ça va se passer la même chose. Cette patience de Dieu, un jour, il va prendre fin. Et ceux qui ne se sont pas tournés dans cette période de grâce, ils resteront ici et ils vont subir la colère de Dieu, comme ils l'ont subi ceux pendant le déluge. La Bible ne le dit pas, mais je l'imagine. Lorsque l'eau il a commencé à tomber, il a commencé à couvrir toutes les montagnes. Je suis sûr que les gens, ils sont montés à haut, de plus en plus à haut, mais l'eau, elle continue à monter. Ou qu'ils ont même frappé à la porte de l'arche. Noé, fais-moi entrer. Encore une fois, c'est pas marqué tout ça, mais j'imagine que ça a été comme ça. Noé, ouvre la porte, fais-moi rentrer. Non, la porte, c'est Dieu qui l'a fermée. C'est pas Noé qui l'a fermée. Hein. C'est Dieu qui l'a fermé. Il n'y a plus aucune chance d'être trouvé. Il n'y a plus de grâce à ce moment-là, parce que c'est la colère de Dieu. Si on veut se mettre à l'abri de cette colère, il faut le faire maintenant qu'on est vivant. Il nous est dit dans Jean 5, vous êtes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et tout cela par Jésus-Christ. Pourquoi, après la mort, il vient le jugement? Pourquoi nous ne passons pas en jugement? Parce que Jésus, il a pris sur lui ce jugement de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritions tous la mort. La mort spirituelle, loin de Dieu. Mais Jésus, il a pris sur lui. Et c'est cette mort-là que le Seigneur... Et comme Paul, si nous avons le Seigneur dans notre cœur, nous devons dire comme Paul, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. » Vous l'entendez, ça, aujourd'hui? Ah, mourir, c'est un gain, oui. On dit ça lorsqu'on sait ce qui nous attend derrière. Bien sûr, on a de la tristesse parce qu'on veut, parce qu'on reste, on laisse des gens que nous aimons. Mais au lieu de vivre cette vie que nous vivons, des fois dans le bonheur, d'autres fois dans la tristesse, dans la souffrance, on se dit, Seigneur, prends-moi. Je préfère être auprès de toi. C'est ça que le Seigneur, il nous demande. Et vous savez, hein, elle est soudaine cette mort, mais il faut être prêt. Dans Luc 13, il y a cette histoire de Jésus qui parle. Des gens, ils lui ont dit, oui, il y a eu une tour qui est tombée sur des gens. Est-ce que cette tour est tombée parce qu'ils étaient des pécheurs? Et le Seigneur, il a dit, il ne rentre pas les péchés là. Il a dit, cette tour, elle est tombée parce qu'elle est tombée. Parce qu'un jour, on doit tous mourir. Qui sait comment nous allons mourir? Personne ne le sait. Et Jésus, il a dit, ce n'est pas parce qu'ils étaient pécheurs. Mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut être prêt. En sortant d'ici, peut-être qu'une voiture, il va m'écraser. C'est ce qu'il compte, c'est être prêt. C'est les accidents de la vie. Combien de gens... Il ne se réveille pas le matin. Il dit, ah, demain je vais faire ça et ça. Et le lendemain, il ne se réveille pas. Il sort un accident de la route. Un AVC. Voilà. Une crise cardiaque. Et pourtant, ils sont en pleine forme. La mort, elle est soudaine. C'est ce qui compte, c'est être prêt. Il nous est dit, Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a une préparation. Mais si quelqu'un ne se prépare pas, si quelqu'un ne pense qu'à cette vie-là, 40, 50, 60 ans, et il ne pense pas à l'éternité qui est derrière lui, il n'en subira les conséquences. C'est comme l'homme riche, vous en souvenez. Hein? Ses avoirs, ils grandissaient de plus en plus. Il construisait des greniers et il disait, repose-toi mon âme. Et Dieu lui a dit, insensé, ton âme elle va être réclamée cette nuit même. C'est ce qui compte, c'est être prêt. Il est réservé à tous de mourir une fois. Et le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour payer cette peine qu'il était sur chacun de nous. Il a été envoyé par Dieu pour préparer la route pour le ciel. Et cette route est toujours ouverte. Et le Seigneur, il continue. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque je lis ce verset de Corinthiens 9, « Malheur à moi, que Paul, il a dit, si je ne prêche pas. Malheur à moi, si je ne témoigne pas. » Est-ce que vous y pensez à cela? Dans votre travail, dans les endroits où vous allez, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est à nous de leur parler de toutes ces choses-là. Encore une fois, s'ils écoutent, ils n'écoutent pas. Ce n'est pas notre affaire. C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui convainquez les gens d'accepter le Seigneur Jésus. J'ai vu des pasteurs qui, à certains moments, ils sont là, trois ou quatre, autour d'une personne. Accepte le Seigneur, accepte le Seigneur, accepte le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Une fois qu'on connaît la vérité, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Après, c'est lui qui dit non. Comme lorsque je vous dis quelque chose, vous dites, ah, mais je ne crois pas. Mais ce n'est pas moi que tu ne crois pas. C'est ce que Dieu te dit dans la Bible. Si tu ne crois pas à la Bible, ça c'est autre chose. Mais je te dis que des choses qui sont dans la Bible. Ce n'est pas moi que tu ne crois pas, mais c'est Dieu que tu ne crois pas. Voilà pourquoi le Seigneur, il n'arrête pas d'intervenir et de nous envoyer quelqu'un pour nous parler de ça. Soit sauvé ou pas sauvé, mais surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais sinon, si je suis sauvé, quelqu'un vient et il me parle, comme on a chanté, « Raconte-moi l'histoire ». Voilà. Hein? Notre ancien pasteur, Bob, il était chez lui. Hein? On avait été là pour chanter, il a dit, « Ne me chantez que des chants où le nom de Jésus est nommé. » Il était sauvé. Et pourtant, voilà, « Raconte-moi l'histoire ». C'est toujours une joie d'entendre parler de celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Et c'est ça dont nous avons besoin le plus. De prêcher la parole, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la Bible, il ne dit pas, toi qui entends la parole, dans les prochains jours, dans les années à venir, viens au Seigneur. Non, dans la Bible, il n'y a qu'un seul moment, c'est le aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui, pas demain, hein, parce que demain, tu ne sais pas si tu es là. Tu ne sais pas si tu as le temps. Pourquoi ? Parce que cette mort, hein, elle est là. Elle peut te surprendre. Mais Dieu, il te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et souvent, c'est un rendez-vous. Personne ne peut manquer. Hein, imaginez-vous qu'on vous dise, je ne vous dis pas Hollande, hein, mais le prochain président de la République me dit, je t'invite à l'Élysée. Alors là, vous serez bien. Hein? Et Dieu, il vous dit, prépare-toi à me rencontrer. Dieu, il ne veut pas qu'on soit en costume ou je ne sais pourquoi. D'ailleurs, tous ils seront habillés pareillement si on a le Seigneur Jésus dans notre cœur. On aura des robes blanches. Mais le Seigneur, il nous demande seulement, crois et tu verras la gloire. Nous allons terminer par un cantique, le 229.